Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. S'il fallait résumer Kenji Girac, je dirais qu'il est les Gypsy King à lui tout seul. Version 2021. C'est-à-dire fier d'avoir inventé la Gypsy Pop Reggaeton. Lui, ce beau gosse solaire de 24 ans, à la voix prodigieuse de ténor, version gitan, qui a déjà vendu plus de 4 millions d'albums et est suivi par 12 millions de fans sur les réseaux sociaux. Un phénomène, donc, Kenji Girac. Mais un phénomène qui dure. Son nouvel album, Mi Vida, est riche de tubes, comme par exemple Dernier Métro en duo avec Gims et évidemment le nouveau single que lui a écrit Vianney. Et d'ailleurs, depuis un mois, une édition limitée de Mi Vida est disponible, agrémentée de titres acoustiques. Alors voilà, la balade s'annonce vraiment solaire. Comme lui, je suis absolument ravie de vous accueillir. Bonjour Kenji.
Bonjour.
Alors Kenji Girac, vous avouez, j'ai lu ça quelque part dans la presse, vous dites « je n'aime pas du tout me livrer ». En fait, vous estimez que c'est votre musique qui parle le mieux de vous ?
Je pense que c'est ma façon de m'exprimer, oui. C'est d'avoir ma guitare et de le faire en chanson. Et c'est plus facile pour moi. Mais voilà, j'y travaille. C'est vrai que maintenant, je commence un peu beaucoup mieux à m'exprimer qu'auparavant. Parce que vous savez, j'ai parlé catalan très longtemps à la maison.
Oui.
Et du coup, voilà, j'ai eu un peu de recul sur le français. Mais je savais quand même un peu parler français, mais avec beaucoup de fautes. Et maintenant, ça va très bien.
Si vous nous dites en catalan que vous êtes vraiment beaucoup moins timide qu'à vos débuts, ça donne quoi en catalan ?
Soc menos timide que abans.
D'accord, je ne vais pas vous suivre en catalan, mais la langue est belle. Bon, vous n'aimez pas vous livrer, certes, mais vous êtes quand même très très exposé. Vous avez déjà cumulé 1,6 milliard de vues sur YouTube. Ça mérite d'être répété. 1,6 milliard de vues. Et vous êtes effectivement suivi par 12 millions de fans sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment des chiffres dignes d'une star internationale. Quand le succès est aussi gigantesque, Kenji, on ne s'y habitue jamais tout à fait. Est-ce que depuis 7 ans, vous commencez à vous y habituer ?
M'y habituer, non, parce qu'à chaque fois quand j'entends c'est ce nombre de gens qui me suivent et ce nombre de vues, ça me laisse toujours bouche bée. Je me dis c'est incroyable qu'il y ait autant de gens qui me suivent et qui écoutent ma musique. Mais même si je ne m'y habitue pas forcément, mais j'en suis très très fier et très content. Et voilà, et là je me sens solide quand j'entends ça. Et ça me fait énormément plaisir, toujours.
Mais alors, cette vie, depuis 6 ans et demi, 7 ans, elle est encore plus folle, plus grande, plus euphorisante que celle dont vous rêviez quand vous êtes entré pour la première fois sur le plateau de The Voice, à seulement 17 ans, le 18 janvier 2014.
Ah ouais, ça remonte déjà. Eh bien, je ne pensais pas que j'allais faire tout ce chemin, non. C'est sûr, moi je croyais que j'allais faire un album qui allait marcher normalement. Et ben voilà, quoi. Mais je n'arrivais pas à me projeter et à penser de faire une carrière aussi belle jusqu'à maintenant. J'ai de la chance, donc voilà, merci au public de m'avoir amené jusqu'à là.
Carrière qui n'est pas que française, hein. On va l'évoquer tout à l'heure, qui est vraiment internationale. On va parler des États-Unis. Mais en tout cas, bon, Kenji Girac, il paraît que votre papa a une voix assez exceptionnelle de ténor. C'est lui qui vous a appris à chanter ?
Je pense que ça vient de lui. Ça vient de lui, ça vient aussi de mon grand-père, parce que ma famille m'a beaucoup inspiré. En étant petit, je voulais chanter comme mon père, parce qu'il a une voix incroyable. Même encore à la maison, quand il me chante des chansons de Luis Mariano et tout ça, je l'admire encore. Voilà, il a une voix incroyable, il peut monter dans les aigus très très haut, sans forcer, avec une voix très claire.
Ouais.
Il a un beau son de voix, un beau timbre de voix. Donc j'ai grandi avec un papa qui m'a toujours émerveillé de sa façon de chanter, de jouer à la guitare. Et par sa sympathie, sa gentillesse, sa façon de
Mais
faire.
Mais vous avez appris à pousser la belle La Voce sur quel type de répertoire ? Parce que là, vous évoquez Luis Mariano. Mais bon, ensuite, enfant, ado, cette voix, vous l'avez travaillée sur quel titre ?
Je sais pas, j'aurais pu chanter une chanson de Luis Mariano. Il n'est jamais trop tard pour connaître le grand amour. C'est des chansons de Luis Mariano que j'ai chantées étant petit.
Bon, il y a 6 ans de cela, Kenji Girac, pour votre premier Olympia, alors que vous n'aviez que 18 ans et déjà le premier Olympia, vous avez demandé à votre père de chanter sur scène avec vous « Vivre pour le meilleur » de Johnny. Ça s'est passé comment ? Comment a-t-il réagi d'abord quand vous lui avez dit « Papa, tu vas venir sur scène ?» Avec moi.
C'est rigolo parce qu'en fait, une fois, il m'avait accompagné dans une émission et j'avais le trac et je lui disais « Papa, j'ai peur d'aller chanter ». Et il me disait « Mais c'est rien, fils, oh là là ». Il dit « T'as toujours chanté ». Il dit « C'est pas grave, vas-y et chante et puis c'est tout ». Je disais « Mais papa, tu sais pas ce que ça fait toi d'aller sur scène, ça fait peur ». Il me dit « Ah là, si c'est moi, je le fais ». Je dis « Ah bon ?» Je dis
« Ok ».
Je dis « Prochain concert que je fais, je t'amène avec moi ». Il m'a dit « Ben d'accord ». Et là, le jour vient où je fais mes 3 Olympias. Et je l'ai invité sur la scène, donc il a fait les répètes allaient très très bien, il avait bien chanté. Et après, là où il y avait le public, juste devant nous et qu'il a chanté, j'ai vu mon père complètement tétanisé. et du coup, il a bien chanté, mais je sais qu'il aurait pu donner plus. Et à la fin du concert, je rigolais, je dis « Alors papa, qu'est-ce que ça fait ?» Il m'a dit « Ah là là, fils, c'est impressionnant quand même, je n'arrivais plus à bouger. »
Et voilà. Bon, votre famille est un clan, une tribu très 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 soudée, et la musique est un lien, un carburant extrêmement présent. Est-ce que votre grand frère, est-ce que vos cousins, vos oncles chantent tous avec cette virtuosité, Kenji ?
Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de, on n'a jamais travaillé à la musique, on n'a jamais fait de cours et tout le monde sait chanter et tout le monde joue à la guitare et de façon très bien.
Donc la famille, c'est une magnifique, gigantesque chorale, quoi.
On pourrait la faire, hein, une grande chorale tous ensemble, ça pourrait être magnifique, mais c'est sûr que j'ai de la chance d'avoir une famille qui est entourée de musiciens.
Alors on raconte que c'est la famille, votre famille, qui valide les chansons qui figurent sur vos albums. Alors, pour Mi Vida, le nouvel album qui propose donc, je le rappelle, une édition limitée, agrémentée de versions acoustiques, ça s'est également passé ainsi. C'est-à-dire qu'avant que les titres ne soient gravés, bien sûr, vous choisissez avec la maison de disques, mais quand même, vous leur faites écouter avant que le disque ne soit fabriqué.
Oui, bien sûr. Même, je pense que je fais écouter avant ma famille et après la maison de disques. Parce que quand je repars du studio avec quelques maquettes...
Ils vont être contents dans la régie, ceux qui sont présents de la maison de disques,
non, mais c'est
de
vrai
savoir
que,
qu'ils sont doublés par la famille au départ.
Mais ils ont une place la plus importante aussi. Hein. Voilà, c'est la maison de disques. J'ai de la chance d'avoir une très très bonne maison de disques aussi. Mais du coup, c'est vrai que les maquettes, je les fais écouter souvent à ma famille en premier. Et après, on peaufine les chansons et on amène ça bien travailler à la maison de disques pour qu'ils ne soient pas déçus de mes sons. Quoi.
Alors, en octobre dernier... Mi Vida est sorti sans les versions acoustiques de Habibi, évidemment, et Dans mes bras. Et pourquoi en février cette édition agrémentée, augmentée ?
Parce que ça m'a fait plaisir de jouer ces sons de mon album, parce qu'ils sont agréables à chanter. Ils sont agréables à chanter, agréables à jouer avec un instrument. Et donc voilà, pour s'amuser un peu plus avec la musique de façon plus naturelle.
Ouais.
Et moi, j'adore. Moi, plus souvent, je chante avec ma guitare et ma voix, tout simplement, pas de micro, rien. Je chante beaucoup mieux comme ça, sans micro, qu'avec un micro et plein d'enceintes ou avec la musique où elle est très forte. Moi, je préfère vraiment chanter dans la nature, autour d'un feu. Et là, voilà. J'écoute mieux la musique comme ça, quoi.
Bah voilà, mais ça, c'est le propre des vrais grands chanteurs.
Merci.
En tout cas, vous êtes à l'origine d'un nouveau genre musical. La pop gypsy ou la gypsy pop mariée à du reggaeton. C'est une fierté d'avoir lancé en France un courant musical.
Oui, bien sûr. C'est une fierté parce que je vois plein de petits jeunes qui reprennent toutes les chansons et qui les font en gypsy. J'ai plein d'amis qui le refont. Des petits jeunes qui ont 15, 16 ans et tout. Et ils savent très, très bien le faire. Et je pense que c'est une grande part. Je les ai inspirés aussi. Donc du coup, moi, ça me rend... heureux.
Et ce courant gypsy, il fonctionne à l'international ? Parce
oui.
que vous avez des fans dans le monde entier, Kenji
Girac. Oui, le gypsy, ça marche, c'est dans le monde entier. Hein. Ça reste une branche du flamenco. Et qui n'aime pas le flamenco, quoi. Il y en a certains qui n'aiment pas, bien sûr. Mais
ils ne sont pas nombreux. Hein.
le style gypsy est connu dans le monde entier et ils apprécient beaucoup les gens.
Mais oui. Alors, c'est en compagnie de Kenji Girac qu'on se balade cet après-midi. C'est absolument magnifique. Donc, vous avez compris, hein. Vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite.
Pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Rien de tel qu'écouter Kenji Girac pour chasser le spleen. Le nouvel album Mi Vida vient de ressortir avec une édition limitée qui propose des titres acoustiques. Voilà, mais cet après-midi, on se promène ensemble. Cher Kenji Girac, ça signifie quoi en 2021 être gitan ?
Ça signifie quoi être gitan en 2021 ? Je ne sais pas. Ça signifie la joie de vivre, la musique.
L'attachement toujours aux racines.
L'attachement toujours aux racines, voilà.
On peut garder son âme de gitan en devenant une star internationale.
Oui.
Vous restez connecté à tout ce qui fait justement l'âme et la tradition dans votre famille, dans votre communauté.
Oui, bien sûr. Même à l'international, si jamais si jamais je parle au nom de tous les gitans, des petits musiciens qui veulent se mettre sur le devant de la scène, ben il faut garder son âme quoi, pour être lui-même et avoir son propre style musical. C'est très important de jamais changer et de rester toujours soi-même.
Mais vous trouvez qu'il y a beaucoup de clichés qui courent, par exemple, sur la communauté des gitans? C'est un monde qu'on connaît mal, en fait.
Oui, c'est un monde qu'on connaît mal. Mais après, c'est vrai qu'on voit souvent que des préjugés qui ne sont pas très bienveillants aussi. Les gens appuient beaucoup sur ça. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir dans la communauté. Il y a beaucoup de respect. Par exemple, moi, j'ai une grande famille. J'ai beaucoup de cousins, vous devez vous en douter. Et moi, la plupart de mes cousins, on est tous... bienveillants, on est gentils, tous entre nous, on se respecte tous. Et on aime les gens, on aime n'importe qui peuvent venir de n'importe quel pays, n'importe la couleur de peau, quoi que ce soit, on est tous ensemble. Justement, plus on est à plusieurs, plus on aime bien.
Alors Kenji, vous avez grandi en Dordogne, avec une vie sédentaire l'hiver, hein, et nomade, paraît-il, de mars à octobre. Donc, avec la famille, vous preniez la route en caravane dès l'arrivée des beaux jours du printemps. Ça, c'est merveilleux, mais c'est pas évident pour l'école.
C'est pas évident pour l'école, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai été scolarisé quand même assez longtemps, mais je restais pas toute l'école. J'ai resté pas jusqu'à la fin. Et ça m'a
manqué un
peu.
Vous n'alliez en fait à l'école que de septembre à fin février, c'est ça? À chaque saison?
Alors, laissez-moi recalculer tout ça. Ben ouais, je faisais la rentrée jusqu'à... Ben je repartais jusqu'à mars après, ouais. De la rentrée jusqu'à mars, c'était très peu. Donc du coup, j'avais jamais les mêmes cours que les élèves dans la classe où j'étais. J'étais toujours un peu en retard. Et voilà, mais j'avoue que ça me manque un peu.
Vous continuiez les cours avec votre maman, par exemple?
Et on a tous continué les cours, ouais, c'est vrai. On faisait les cours par correspondance, mais voilà, c'était mieux d'aller à l'école, quoi.
Alors, votre père était élagueur et comptait beaucoup de clients dans le sud de la France. Est-il vrai que... lorsque toute la famille, avec donc tous les cousins, paternels comme maternels, et vous nous avez dit qu'ils étaient très nombreux, est-il vrai que lorsque toute la famille prenait la route au beau jour, c'était plus d'une centaine de caravanes qui se déplaçaient? C'est vrai ça?
Des fois, oui, ça nous arrivait parce qu'il y avait des étrangers qui se mettaient, d'autres gitans qu'on ne connaissait pas, qui se mettaient avec nous. Et du coup, ça, les caravanes, eh ben, ça en faisait beaucoup après. Mais sinon, si je dois compter que la famille proche, ouais, on pouvait être 30, 40 caravanes, rien que nous. Et on était sur des emplacements faits exprès. Et on allait dans le sud et comme ça, on faisait notre tournée de tous les clients pour couper les arbres qui étaient dangereux, tout ça.
Alors, est-ce que votre papa vous a appris son métier d'élagueur, qui effectivement est un métier dur et très dangereux puisqu'il faut grimper haut dans les arbres pour en tailler les branches? Ça, il vous l'a appris à l'adolescence?
Ben, quand j'ai quitté un peu l'école assez tôt, moi je savais que mon père faisait un métier dangereux. Et quand j'étais enfant, je me préoccupais beaucoup de mes parents. J'avais toujours peur que mon père se fasse mal ou quoi que ce soit. Donc quand j'allais travailler avec lui, pour moi c'était un soulagement parce que j'étais là avec lui. Et je le voyais qu'il était en sécurité parce que mon papa, il travaillait très 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 bien. Pour sa façon de travailler aussi, je l'admirais parce que mon père n'est pas très grand. Cette façon de monter dans les arbres...
Il ne faut pas avoir le vertige, faut faire l'alpiniste.
Et ben, c'est de l'alpiniste en fait, mais dans les arbres. Et du coup, là, de le voir travailler devant moi, je me sentais bien. Et moi, souvent, je voulais monter aussi et l'aider à couper les grosses branches et tout, mais il ne voulait pas, lui, parce qu'il avait peur pour moi. Donc du coup, moi, je restais en bas et je coupais les branches pour les placer.
Il avait peur pour vous?
Ouais, il voulait jamais trop me laisser monter. Il m'a laissé monter 2-3 fois, mais il n'était pas très... Il voulait
très
pas,
rassuré,
il avait peur.
Ouais. Oui. Alors, Kenji Girac, dormir dans une caravane, c'est comme dormir dans un bateau, par exemple. On est davantage connecté à la nature. Il paraît que vous aimez bien parfois, alors que vous avez la grande maison avec toute la famille à l'intérieur, il paraît que vous aimez bien parfois vous écarter, faire une sieste dans la caravane, comme pour retrouver les sensations de l'enfance. Et,
bien sûr.
Et comme être en partance.
Exactement, moi j'adore. De temps en temps, là, je fais une petite sieste dans la caravane, des fois même dans celle de mes parents, parce que voilà, il y a l'odeur de mes parents et du coup ça me fait du bien de retrouver les têtes d'oreiller de mon père et tout. Et je me sens bien, quand on dort dans une caravane, c'est magnifique, on se sent, alors qu'on est moins protégé que dans une maison, mais on se sent dans un petit cocon qui est chaud, confortable. Et voilà, moi j'adore et j'ai grandi comme ça, donc du coup pour moi c'est au fond de mon cœur et je ne pourrais jamais l'enlever.
Où chantiez-vous, Kenji Girac, quand vous aviez 15 ans? Vous chantiez juste pour les fêtes de famille, pour les fêtes votives, ou bien vous commenciez à faire des petites scènes régionales?
À 15 ans, je jouais pour la famille, tout ça. Quand il y avait un baptême ou quoi que ce soit, on était les premiers à sortir les guitares. Mais à 15 ans, j'avais des cousins qui jouaient aussi de la guitare et on faisait la tournée des bars.
Oui.
À 15-16 ans, c'est vrai. Alors des fois, on adorait aller dans les bars et jouer de la guitare pour ramener du public. Et des fois, les gens qui travaillaient dans le bar étaient très contents qu'on vienne parce qu'on ramenait des clients.
Alors, vos cousins jouaient de la guitare, il y en a un qui chantait, c'était vous.
Mes cousins aussi chantaient. Alors des fois, on chantait tous les trois ensemble, ça faisait beau. L'autre, il reprenait la voix grave, moi, je faisais les aigus. Et ça, voilà, c'était des moments merveilleux.
Et quel répertoire repreniez-vous quand vous faisiez ça?
Je chantais du Gypsy, chantais du Luis Mariano, du Enrico Macias. Je pouvais chanter des chansons gitanes, de la rumba gitane. Et voilà, et tout ça. Et on prenait une petite pièce et on était contents.
Mais un jour, Kenji Girac, votre oncle va prendre les choses en main. Tout commence par une vidéo filmée dans une caravane, alors que vous chantez. Bon, on fait une pause très très courte. Et puis Kenji va vous expliquer tout ça. On se retrouve tout de suite avec le prodige de la pop Gypsy.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Kenji Girac, je reprends la scène là où on l'a laissée. Vous êtes dans la caravane de votre tante qui fait la vaisselle pendant que vous buvez un petit café et votre tante vous dit qu'elle adore la chanson de Maître Gims, Bella. Alors votre oncle vous demande de l'interpréter, voilà, mais en mode gypsy. Et quand tous les deux vous entendent, ils se disent que c'est tellement réussi, la version que vous en faites, que bah, ça serait sympathique de vous filmer. Donc votre oncle sort son portable pendant que vous chantez. Il filme, il faut nous raconter la suite.
Mais c'est exactement ça, là il filme, je me souviens qu'il y avait même mon petit chien à côté qui jappe dans la vidéo. Et ben voilà, après j'ai chanté la chanson, on l'a postée sur internet. Moi je voulais simplement quelques j'aime, parce que j'avais des cousins qui avaient un peu plus de j'aime que moi. Et
alors
moi,
c'était
je me suis dit
pour avoir un peu plus de likes,
ben oui,
c'est tout.
Et je me suis dit, bon, avec une guitare et une chanson, peut-être je vais gagner le concours de j'aime. Et du coup, dès que je l'ai mis sur internet, ouais, ça m'a... Le lendemain déjà, je voyais que... Tout le monde avait partagé, ça commençait à monter.
Et le surlendemain, 1 million de vues.
Après j'ai vu que Gims avait vu la reprise et tout. Moi j'étais tellement content, j'étais incroyable. Je dis, ah ouais, même Gims a vu ma vidéo. Pour moi c'était tout nouveau, j'en croyais pas mes yeux.
Bella, ouh, bella, ouh, bella, ouh, bella. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin. Fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep, hey, hey, bête comme Yep, hey, hey, j'suis l'homme de Torienche, hey, hey, l'homme de Torienche, hey, hey, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, allez, fais-moi tourner la tête, hey, hey, tourner la tête, hey, hey, rends-moi bête comme Yep.
répondait ton nom de veille là. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille là. Elle répondait ton nom de veille là. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille là.
Alors, KJ Girac, combien de temps s'est écoulé avant qu'un recruteur, un casteur qui s'occupait des castings de candidats pour The Voice ne vous appelle?
Il s'est passé à peu près 4 jours. 4-5 jours,
ouais. Hallucinant, ultra rapide.
Ultra rapide, et j'avais mon téléphone
qui sonnait.
Il y en a qui
attendent des années, vous savez, en vain. Et 4 jours après avoir posté la vidéo, paf, la prod de The Voice vous appelle.
Et pourtant, je n'ai pas fait exprès. Et du coup, j'avais plein de propositions. Mon téléphone sonnait à chaque fois dans ma poche. Et j'avais plein de gens qui m'appelaient, qui me proposaient de faire des albums à Cuba et tout. Et je n'avais pas très confiance. J'ai posé la question à mes parents. J'ai dit, papa, maman, il y a des gens qui m'appellent, qui veulent me faire un album et qui veulent m'amener à Cuba. Et ma mère, elle m'a fait, non, il ne bouge pas d'ici. Le petit, il ne bouge pas d'ici.
Le petit, il ne bouge pas. Il aura juste le droit d'aller à Paris pour faire The Voice.
Parce que The Voice, il connaissait.
Bon, mais alors, je voudrais savoir quand même, ce casteur, il vous a retrouvé comment? Il a eu le téléphone de votre père, il vous a appelé pendant la période sédentaire ou la période nomade, le premier coup de fil? Comment se présente-t-il? Bonjour, je suis la production de The Voice, je voudrais que votre fils vienne à Paris.
Ben en fait, il m'a appelé encore sur mon téléphone, il a réussi à trouver mon numéro grâce à des gitans de Marseille. Et ce monsieur-là, que j'embrasse très fort, s'appelle Bruno Berberès, qui est le casteur de The Voice.
Oui.
Et là, il me dit oui, bonjour, je suis le casteur de The Voice. Je me présente Bruno Berberès et je vous demande si vous voulez participer à l'émission de The Voice. Et moi, j'ai dit The Voice. Et je dis en plus, on aime bien dans la famille The Voice. Et je dis mais pourquoi pas, avec plaisir. Et là, j'en ai parlé encore une fois à mes parents. Et là, ils ont dit bon, mais si c'est The Voice, c'est à Paris, c'est pas loin. On connaît l'émission, on adore.
Et on viendra avec toi.
Et surtout, le papa, il a dit ben, moi, je te suis, comme ça, je te suis, je viens avec toi et tout. Et ça s'est passé comme ça. Et après, j'ai fait mes premiers castings. Et voilà.
Bah alors, justement, concrètement, une fois que vous avez dit oui, Kenji, comment se déroule le compte à rebours jusqu'au soir fatidique de The Voice? Parce qu'il y a plusieurs castings à passer avant d'arriver sur le grand plateau face à la France entière.
Exactement. Il y a un casting, j'ai fait le premier. Et après, directement, je suis passé par les répètes avec les musiciens. C'était la toute première fois où je chantais derrière un micro et avec un grand orchestre. Donc du coup, j'étais stressé à fond et je me demandais qu'est-ce que je fais là. Tout était nouveau, tout était incroyable pour moi. Mais bon, voilà, j'ai vu que les gens étaient vraiment bienveillants. Donc du coup, je me suis senti à l'aise, protégé et tout. Et...
Vous aviez choisi de réinterpréter la fameuse chanson qui vous avait porté chance, c'est-à-dire Bella de Gims.
Ouais, j'ai refait cette chanson, j'aurais pu en choisir une autre, mais je me suis dit, bon, je me suis fait connaître sur cette chanson en vidéo, bon, on va la faire avec un orchestre.
Alors, Kenji Girac, au moment où votre destin va se jouer, quand s'ouvre la porte, donc sur cette scène gigantesque de The Voice, d'où on aperçoit les dossiers des fauteuils rouges, des coachs qui font comme une espèce de mur.
C'est ça.
Et qu'on devine derrière les caméras, bah, la France entière qui elle aussi s'apprête à vous juger, n'est-ce pas? Parce que ça commente hein,
ben
dans
oui.
les salons et les cuisines devant le poste de télé. Je voudrais savoir ce qui domine, c'est la terreur, la jubilation, l'envie de fuir ou la certitude que, précisément à ce moment-là, une nouvelle vie commence.
Moi, je me souviens que j'avais tellement peur que je voulais fuir. Je voulais, il y avait 4 marches, je les ai comptées. Et on me dit, Kenji, c'est à toi. Et je suis resté bloqué. Je me dis, j'y vais, comment je fais? Et en fait, j'étais tellement terrorisé que je me suis posé des questions. Et du coup, le gars qui nous amène devant la scène, il a dit, vas-y Kenji, c'est à toi maintenant, lance-toi. Et là, je suis allé, j'étais traumatisé.
Mais alors, on prend comment sa respiration? Parce que c'est incroyable.
Ben, on y
faut
va.
Pas avoir de chat dans la gorge. Il faut...
Ben, en fait, ça nous paralyse. J'avais la bouche paralysée. Je chantais, mais je sentais que mes lèvres ne suivaient pas forcément. Donc, je bafouillais un peu. Et...
Je peux vous dire que j'ai revu, en préparant cette émission, votre première prestation. Et Dieu sait si vous n'aviez pas du tout l'air paralysé.
Ah bon?
Oui.
Ben, je faisais en sorte que ça ne se voit pas. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce mur de fauteuil en face de moi, je me suis dit, bon, à savoir s'ils vont se retourner ou pas. Donc j'ai fait mes premières notes et tout, et là, je pense qu'à partir du premier couplet, Mika s'est retourné.
Mika se retourne, voilà. Et depuis...
Et c'est là où tout commence.
C'est là où tout commence, et depuis, Kenji Girac a vendu plus de 4 millions d'albums. On fait une pause très courte, on se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Tout de suite, Kenji, on écoute évidemment extrait du nouvel album, Mi Vida.
C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins, même de rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment, de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pardonner. Être à deux, c'est pas ton air. C'est pas donné de tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière, si tu te perds. Moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, être à deux, c'est pardonner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux, c'est pardonner.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Kenji Girac, que symbolise-t-il ce tatouage sur votre avant-bras d'un loup portant le collier attrape-rêve des tribus amérindiennes?
Ben, qu'est-ce que signifie pour mon premier tatouage? Ben, je l'ai fait à Miami, c'était mon premier voyage.
Ah oui,
à Miami, oui. Et moi, je m'étais dit toute ma vie que j'allais jamais me faire tatouer. Et là, ben voilà, quand j'ai eu 18 ans, 19 ans, je me suis dit, allez, c'est bon, un tatouage, j'ai envie de me faire tatouer, ma famille, elle n'est pas là pour me surveiller, je vais en profiter. Et ben, en fait, j'ai fait le loup parce que je trouve que c'est l'animal qui me ressemble le plus, parce que voilà, il protège la meute.
Voilà.
Et aussi, ben, la trappe-rêve des Indiens pour... qui me fait rappeler aussi mon peuple, parce qu'on joue souvent de la musique autour des feux,
ouais.
Tous ensemble, sauf que nous, on n'a pas des tipis, on a des caravanes. Donc du coup, c'est pour ça, ça m'a fait penser un peu à ça. Donc je trouve que c'est le tatouage qui me ressemble le plus.
Alors, vous n'aviez que 17 ans quand vous avez remporté The Voice. 17 ans et soudain, tous vos rêves étaient exaucés. Bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, écrivait Rimbaud. Mais quand, à 17 ans, on devient le plus gros vendeur de disques en France, Kenji Girac, on est comme le patron d'une énorme entreprise. Votre vie, elle est calibrée combien de temps à l'avance, maintenant?
Ben maintenant, c'est vrai qu'on se prend beaucoup à l'avance. Hein. Si c'est pour un album, on se prend pratiquement un an à l'avance. C'est par année, je pense même pour une tournée aussi. C'est un an et demi à l'avance, on prépare.
C'est-à-dire que un an et demi avant, vous connaissez les dates des villes dans lesquelles vous serez, des pays dans lesquels vous irez chanter.
Ouais. C'est énorme.
C'est énorme. Donc la solitude, vous ne connaissez absolument pas.
La solitude, non. Non, c'est vrai que non, parce que je ne suis jamais seul. Si je ne suis pas entouré de mes amis, je suis forcément entouré de quelqu'un que je connais. Et la solitude, je n'aime pas ça.
Alors justement, parlons là juste un tout petit peu de cette vie privée et familiale qui est la vôtre. Kenji Girac, quand vous rentrez au Bercail, hors de Paris, dans la maison où se retrouve donc toute votre famille, c'est-à-dire vos parents, le grand frère, vos deux sœurs, avec leurs conjoints et leurs enfants, vous retrouvez une vie qui est presque comme celle d'avant, avec les caravanes d'ailleurs de chacun alignées au fond de la cour. Il paraît que vous avez la vôtre. Vous ne supporteriez pas que ce monde-là change? Vous ne prendrez jamais le large?
Si, forcément. Un jour, il faudra que je que j'ai ma propre maison à moi tout seul. Mais là, d'ailleurs, j'ai ma propre maison tout seul, mais j'ai mes parents juste à côté maintenant, oui. Ça y est. Sauf que là, mes parents viennent juste pour leur dîner, en fait. Ils viennent tous, sinon chacun reste dans sa caravane. J'ai mon frère qui est dans sa maison aussi.
Mais c'est ce même esprit de vie qui perdurera, c'est-à-dire qu'après votre père, ce sera vous le chef de clan, mais cette vie de famille, vous ne pouvez pas vous en passer.
Je ne peux pas m'en passer. Moi, j'aime bien quand il y a mon frère, quand il y a mes sœurs, quand il y a les enfants. C'est vrai que c'est bruyant, mais j'aime bien. J'aime bien, voilà, on est tous en famille. Et je me dis que chaque moment que je passe avec eux, c'est un bon moment. Ou alors, parce que la vie va tellement vite et j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Donc, je vais en profiter au maximum.
Katy Girac, est-ce que vous avez rencontré les Gypsy Kings, dont vous avez interprété plusieurs tubes en passant les étapes de The Voice, et sur les tubes desquels vous avez si souvent chanté quand vous étiez ado? Oui. Vous les avez rencontrés?
Oui, bien sûr, je les ai rencontrés, j'ai chanté avec eux. C'est des gens formidables, simplement incroyables, parce qu'ils sont tellement gentils, tellement simples, tellement souriants, tellement bienveillants. C'est adorable, on pourrait rester des jours et des jours avec eux, on ne s'ennuie pas en plus.
Les Gypsy Kings ont assuré la première partie de concert de Michael Jackson dans des stades dans les années 90. Vous avez déjà enregistré avec Ariana Grande, la jeune star américaine de la pop et du R&B qui vend plus d'albums que Beyoncé, faut le dire. Et c'était sur son tube One Last Time, et vous avez chanté en duo sur scène avec Ariana Grande au Zénith de Paris. Est-ce que partir à l'assaut du marché américain, ça fait partie de vos projets? Parce que vous avez déjà chanté sur le continent américain.
Oui, oui. J'ai déjà fait un concert. Je devais terminer ma tournée aux États-Unis. Je commençais par le Canada. Après, je faisais Miami et Los Angeles. Et on n'a pas pu faire les deux derniers concerts qui étaient à Miami et Los Angeles. À cause du Covid, il a fallu vite rentrer à la maison parce qu'on avait peur de rester confiné là-bas.
Ouais.
Et bon, voilà, c'est à reporter plus tard. Enfin, je l'espère.
Bien sûr.
Je l'espère.
Bien sûr.
I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you.
En un mot, en un mot, en un mot, sans toi plus rien ne brille, plus aucun rêve ne me tient de. Arrêtons de nous cacher. En un mot, en un mot, en un mot, je pourrais changer de vie, mais tu resteras mon seul amour. Si ce soir c'est la dernière fois.
Ça se prépare comment, une tournée aux États-Unis, en plus des cours intensifs d'anglais, parce qu'il vaut mieux quand même pour les interviews maîtriser. Que faut-il mettre au point qui est différent peut-être par rapport à la manière de toucher le public et les médias français?
Je me débrouille bien en espagnol là-bas, donc du coup, c'était intéressant de savoir parler espagnol avant d'aller là-bas. Donc du coup, voilà, avec mon espagnol, je m'en sors là-bas.
Ouais.
Et voilà quoi.
Mais il paraît qu'à un moment donné, je ne sais plus si c'est au cours de l'année 2017, vous aviez fait une petite retraite parce que dans le tourbillon phénoménal depuis la victoire de The Voice, vous étiez partout, on vous réclamait sans cesse. Et il paraît que vous êtes allé en vacances aux États-Unis. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la route 66. Vous êtes allé où?
Je suis allé à Miami, à Los Angeles, mais j'ai fait du studio en même temps. J'ai travaillé de la musique là-bas. Je me suis dit, et j'ai rencontré des producteurs américains qui font aussi du reggaeton. Et j'avais fait pas mal de chansons avec eux que j'ai encore dans mes mails. Et je les ai pas sortis, dommage. On verra. Mais bon, voilà, ils sont bien gardés au fond de mes mails.
Ah, mais donc il y a des pépites enregistrées là-bas avec des featuring, avec.
Non, c'était que vraiment pour moi.
Que pour vous. Ouais. Et c'est au chaud et ça va voir le jour, forcément.
Forcément, un jour, ça verra le jour, oui, parce que c'est pas mal. C'est des titres bien, bien festifs et tout.
Extraordinaire, extraordinaire. Bon, en attendant, de les découvrir. Je rappelle que, bien sûr, les 5 et 6 juin, vous serez au Palais des Sports à Paris. Ensuite, il y aura une tournée gigantesque qui vous emmènera jusqu'au bout du printemps 2022, donc à travers toute la France et au-delà. Le Palais des Sports, vous avez une idée de la manière dont vous allez l'aborder, Kenji ?
Oui, bien sûr, j'ai déjà fait le Palais des Sports et franchement, c'est l'une des salles que je préfère à Paris.
Pourquoi ?
Parce que le public est bien installé en fait, on le voit d'une façon vraiment, c'est vraiment bien fait quoi, de comment on peut voir le public et chanter avec eux. Et aussi le son de la salle, la qualité de son qu'on a dans cette salle dès qu'on chante avec dès qu'on joue avec tous les musiciens et tout.
Vous avez trouvé que c'était plus agréable à faire que Bercy par exemple, que vous avez rempli de façon triomphale ?
Bercy, il y a un bon son aussi, c'est vraiment bien. J'adore les deux, mais je crois que je préfère le Palais des Sports.
Très bien. Et le Stade de France ?
Ça, c'était énorme. Avec Maître Gims, j'ai eu la chance de chanter Bella 7 ans après au Stade de France avec le chanteur qui m'a fait connaître, Gims.
Non, mais attendez.
C'est quand même incroyable.
Moi, je reprends la scène dans la caravane de votre tante pendant que vous buvez le petit café avec l'oncle qui sort son téléphone portable, qui filme. Et ensuite, vous faites le Stade de France avec Gims.
C'est incroyable.
Sur cette chanson.
Et du coup, c'est quand j'ai chanté avec lui sur la scène, je pensais à ça. Je me dis, c'est incroyable. Et avec tous les gens qui nous acclamaient avec Gims, parce qu'ils étaient très contents de me voir, et ça aussi, ça m'a touché. Et du coup, voilà, c'était juste énorme, quoi.
Ce garçon est béni des dieux et il le mérite. On retrouve tout de suite Kenji Girac.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
1 milliard 600 millions de vues sur YouTube. C'est énorme. Kenji Girac, roi de la gypsy pop, dont le nouvel album Mi Vida est tout simplement euphorisant, est mon invité. Alors, cher Kenji, parmi les pépites tubesques et très calibrées pop, gypsy, reggaeton du nouvel album, eh bien, on trouve un titre inattendu. Un cantique chrétien, « Oh, prends mon âme », qui fait référence à votre foi protestante évangélique. Or, en 2015, vous aviez confié à Libération que la lecture de la Bible avait réellement compté dans votre construction. Quel croyant êtes-vous ?
Je suis un croyant avec ses défauts. mais c'est vrai que j'adore la religion et je pense que ça me fait le plus grand bien possible quand je prie et quand je sais que je lis la Bible et quand je fais des bonnes actions. Je me sens protégé.
Mais à partir de quel âge vous êtes-vous mis à lire la Bible ?
Très jeune. J'avais ma propre Bible. J'avais à peu près 8 ans ou 9 ans. Et je chantais des cantiques à tue-tête toute la journée. Et tous les soirs, je priais avant de dormir tout seul. Et j'allais dans les réunions, parce qu'on appelle ça les réunions évangéliques. Et très petit, j'allais aux réunions chanter des cantiques et voir les pasteurs prêcher. Et je me rappelle souvent que j'allais, je priais et j'étais touché et je fondais en larmes parce que je savais que... Parce que j'étais béni, j'avais la bénédiction de Dieu sur moi et du coup, ça m'a toujours fait du bien et ça m'a toujours soulevé, ça m'a toujours porté cette bénédiction de Dieu. Et j'espère la garder toute ma vie et voilà, et me rapprocher de la religion de plus en plus.
Mais vous n'êtes pas baptisé, Kenji.
Je suis pas...
Le grand frère est baptisé.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Et pourquoi pas vous, si le grand frère l'est ?
Mais parce que si je me baptise, il y aura des choses que je devrais arrêter de faire. Parce que si on choisit la religion, soit on la fait bien, soit on la fait pas à moitié.
Ah vraiment ? C'est-à-dire ?
Il y aura des contraintes, il y aura des choses que je pourrais plus faire. Je pourrais plus aller dans les bars, c'est fini.
Ah vraiment ?
Non, oui, c'est vraiment fini. C'est pas la place d'un bon chrétien ou d'un pasteur.
Donc ça veut dire que vous êtes bien plus libre de chanter sans être baptisé.
Voilà.
Votre foi, elle est dans votre cœur.
Voilà.
Vous la portez en vous en permanence et c'est finalement le plus important.
C'est le plus important.
Alors, vos ancêtres, Kenji Girac, viennent d'Espagne. Longtemps, les gitans espagnols ont été catholiques. Et désormais, le protestantisme évangélique est majoritaire. Hein. Mais le culte, il est pratiqué de façon différente chez les protestants par rapport aux catholiques. Je ne sais pas, vous trouvez par exemple que chez les protestants évangéliques, il y a plus de ferveur, que le culte est toujours pratiqué en musique.
Le culte est pratiqué en musique, c'est tous les dimanches, c'est le matin, c'est à peu près pareil, je pense. Mais après, je ne saurais pas trop vous dire. Mais voilà, tant qu'on est bienveillant et qu'on suit la religion, c'est le plus important.
Bon, Kenji, qu'avez-vous appris depuis maintenant presque 7 ans que votre vie a décollé pour devenir ce tourbillon complètement fou? Quelles sont les choses essentielles que vous avez comprises dans ce métier? Parce que nous, public, on vous voit toujours comme le très jeune garçon de 18 ans qui déboule sur scène, solaire, euphorisant. Mais ça y est maintenant, vous êtes un adulte et ce métier ne vous a pas manifestement écarté des valeurs transmises par votre père, par votre famille. Mais qu'est-ce que vous avez appris de plus surprenant ?
J'ai appris à beaucoup travailler, à gérer tout ce que je veux faire, tout en étant tranquille et tout en profitant tout ce travail. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Et de me dire, au lieu de dire « Ah, je suis fatigué, j'en peux plus », je pense que maintenant, j'arrive à prendre du plaisir, à beaucoup travailler. Parce que voilà, il ne faut pas croire, mais on se déplace beaucoup.
Mais c'est
ça. Le temps d'organisation, l'organisation de tout ça.
Le public n'imagine pas qu'en fait, la vie nomade qui était la moitié du temps celle de votre enfance et de votre adolescence, n'est-ce pas ? Cette vie nomade, c'est la vie des saltimbanques. Donc ça continue.
Ça continue en musique pour aller voir mon public. Des fois, je le fais pour aller voir ma famille. Et après, en contrepartie, je le fais pour aller voir mon public, qui est à peu près ma deuxième famille, parce que ça fait 7 ans que je grandis avec eux. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais franchement, je me dis que j'ai de la chance d'avoir fait tous ces concerts, d'avoir ce public. Donc du coup, il ne faut pas passer à côté. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Plus de 400 concerts déjà donnés.
Ouais, 400 concerts, même un petit peu plus, mais vaut mieux dire 400. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper.
Il est humble, ce garçon. Il est humble. Ce public, il est fait pas seulement de jeunes comme vous. Ce public, je sais qu'il y a les mamies qui accompagnent leurs petites filles adolescentes. Enfin, c'est un public très familial et très large.
Très large. Il y a les papas, il y a les mamans, il y a des mamies. Moi, j'adore voir les mamies parce qu'elles chantent, elles dansent avec moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir toutes les familles passer un bon moment, les voir sourire, les voir chanter. En fait, c'est ça, nous, notre vraie récompense sur la scène.
Vous savez quoi ? En plus, il a les prunelles qui brillent quand il dit tout ça. On est vraiment avec un garçon formidable cet après-midi. On le retrouve tout de suite après une courte pause.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Kenji Girac. Le porte-bonheur, la petite guitare en ivoire offerte par un de vos cousins quelques jours avant que vous ne vous rendiez au casting de The Voice, vous l'avez toujours ?
Cette petite guitare, je l'ai perdue.
Oh.
Et du coup, je m'en suis voulu énormément de l'avoir perdue parce que c'était un peu mon porte-bonheur. C'était un cousin qui me l'avait offert, oui. Et je l'ai gardé pendant un an. Et je me souviens que quand j'avais porté cette guitare, pendant un an, il m'avait arrivé que des bonnes choses. Et j'avais vécu un été incroyable. Et je me souviens, je me suis régalé. Je sais pas, je pense que c'était vraiment un porte-bonheur. Et après, j'ai gagné avec cette guitare. J'ai fait
vous
mon premier album.
Vous l'aviez autour du cou quand vous avez fait la finale de The Voice ?
Quand j'ai fait la vidéo, quand j'ai fait la finale de The Voice, quand j'ai fait mon album. Et cette petite guitare, la corde, elle s'est cassée un jour et je l'ai perdue. Mais je la pleure encore, je crois.
Oh, mais alors, la petite guitare que j'aperçois là, autour de votre cou et qu'il vient d'embrasser. Alors, celle-là...
Ça, c'est mon oncle qui me l'a offert. Le frère à mon père.
Elle est chargée aussi, alors.
Oui, tellement fier. Il est tellement fier de moi qu'il m'a fait un beau cadeau, il m'a fait cette magnifique guitare.
Elle est magnifique. Hein. Bon, on n'est pas un vrai gitan si on n'est pas un petit peu superstitieux.
Oui.
Non ?
Si, ouais, je suis superstitieux à fond.
Kenji, j'imagine que c'est difficile de se projeter quand on n'a que 24 ans et puis une vie de triomphe annoncée devant soi. Mais si je vous demande d'imaginer, je ne sais pas, le chef de clan que vous serez par exemple à 40 ans. 40 ans, ça lui paraît tellement loin. Vous chanterez toujours, ça c'est certain, car c'est dans votre ADN. Mais vous rêvez de découvrir quoi ? De produire quoi ? Vous serez forcément au cœur d'une grande famille, gitan pour toujours. Mais vous imaginez quel genre d'aventure d'ici une quinzaine d'années ?
À 40 ans, oulala, j'espère déjà produire mes albums entièrement dans mon propre studio, avec une grande famille. Et
produire d'autres talents aussi peut-être.
Et produire d'autres talents et essayer de, voilà, de faire des chansons pour tout le monde, d'essayer de faire plein de choses en fait, créer des associations. Quand j'aurai le temps de pouvoir faire tout ça, ça serait vraiment bien.
Le temps vous manque un petit peu, comme justement vous êtes toujours entre deux avions, entre deux trains, à changer de valise en permanence. Oui. Le temps vous manque un petit peu pour vous?
Oui et non, parce que j'aime bien quand même. J'aime bien quand même tout ça, même si on se déplace beaucoup, qu'on est entre deux valises, entre une ville par jour. C'est vrai que ça peut être fatigant, ça prend du temps, mais voilà, je me suis
habitué. Vous savourez.
Je savoure, exactement. Je n'ai pas envie de me dire « Oh là là, j'en ai marre d'être ici », alors qu'en fait, c'est juste une vie incroyable ce que je vis. Donc autant en profiter et quand un jour je serai fatigué, ben là, là on verra bien.
Non. Vous interdit d'être fatigué parce que nous, le public, on est là, on a besoin de vous. Alors, Kenji Girac, c'est le moment où je vais faire un petit caprice, n'est-ce pas?
Okay.
On ne peut pas se quitter sans un petit peu d'euphorie dans nos cœurs et nos tympans. Donc si je vous demande de reprendre a cappella un extrait d'une de vos chansons préférées, par exemple du nouvel album Mi Vida, vous allez nous offrir quel titre?
Je pourrais vous faire évidemment en a cappella.
Allez.
C'est pas donné à tous les humains de pardonner les mauvais chemins. Même de rien. C'est pas donné à tous ceux qui s'aiment de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu, mais pour mieux s'aimer, être à deux, c'est pardonner. Évidemment, fermer les yeux sur le passé, être à deux, c'est pardonner.
C'était magistral.
Merci beaucoup.
Tous les auditeurs d'Europe 1 vous applaudissent. Merci infiniment. Ah, ça passe trop vite le temps avec vous. Alors, cher Kenji, je rappelle que les 5 et 6 juin prochains, le Palais des Sports à Paris vous appartient. Ensuite, on ira vous applaudir.
Merci beaucoup,
en
je vous attends.
Ah, mais oui, on est prêt. On est prêt.
Je suis prêt aussi. J'espère que je vais vous faire danser.
À très vite et merci encore.
À bientôt, merci à tous.